14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, ici vous le savez, nous écoutons le monde changer et nous vous montrons aussi ceux qui ont déjà un coup d'avance et qui nous aident à vivre cette révolution. Ils sont nombreux pendant cette crise sanitaire à s'être creusé les méninges pour imaginer des dispositifs qui vont nous accompagner dans la France d'après. Celle qui nous impose des distances, celle qui nous oblige à respecter des gestes barrières, celle qui va nous contraindre aussi à prendre de nouvelles habitudes pour nous déplacer, pour travailler et pour vivre, hein. Tout simplement. Pour regarder de près ce qui va nous être utile, justement, elle est à mes côtés chaque jour, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous.
Nos invités vont nous rejoindre tout au long de l'émission pour nous montrer comment ils vont justement nous aider dans notre vie de tous les jours. À partir du 11 mai, vous le savez, les écoles vont rouvrir leurs portes à davantage d'élèves, les gares, les lieux publics vont de nouveau se remplir. Et dans ces lieux de passage, la question est comment assurer la sécurité sanitaire. Bonjour Eric Vergne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président d'Elomou, vous êtes vous aussi posé, je suppose, cette question, puisque vous avez décidé de transformer un robot qui n'était pas initialement destiné à la désinfection, vous l'avez converti pour qu'il devienne un véritable outil au service des entreprises. Racontez-moi comment est-ce que vous avez fait et comment vous en avez eu l'idée.
Alors, notre métier, on a deux métiers, on fait un mécano industriel à base de profilé aluminium pour faire des châssis, des bâtis dans les industries mécaniques. Et on fait également des systèmes pour bouger les pièces dans les ateliers. Donc, on a conçu un robot mobile pour déplacer les pièces dans les ateliers. Et ce robot mobile est en lancement il y a peu de temps. Et le Covid est arrivé. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut contribuer au bien commun et comment on peut contribuer à faire bloc contre le coronavirus. Et on a eu l'idée de reconvertir ce robot avec l'aide de deux partenaires, Akeoplus et Pharmaplan, l'un a des compétences digitales très avancées et l'autre a des compétences en désinfection en pharmacie très complètes. Et on a eu l'idée de dire, pour participer à bloquer ce coronavirus, on fait quelque chose qui va contribuer à la désinfection.
Et alors, donc, ce robot, il a un nom, hein. Il s'appelle Red, oui, c'est ça. Et je crois qu'il est prêt à être testé, c'est ça.
On l'a appelé Red et il est prêt à être testé sur la base des trois compétences, hein, mobilité, intelligence artificielle et désinfection. Et c'est vraiment la réunion de trois compétences qui fait qu'on a quelque chose qui est très complet. Notre objet, c'est désinfecter de manière automatique et de créer des expériences digitales de désinfection dans des milieux donnés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser dans les grandes surfaces, dans les trams TGV, dans les usines de production, et on va pouvoir traiter en très peu de temps de très grandes surfaces.
Ce qui veut dire que vous dites qu'il est autonome pendant pas mal d'heures et il peut désinfecter 100 mètres carrés, par exemple.
Alors, il peut désinfecter 100 mètres carrés en une minute, effectivement.
Une minute, oui. Donc, ça laisse effectivement assez songeur sur la quantité de lieux qu'il va pouvoir désinfecter en une journée, par exemple. L'autonomie, c'est quoi? C'est 24 heures?
On est sur une autonomie là de 8 heures. Après, si vous ramenez ça à une usine de fabrication, par exemple, où là, on voit dans la période actuelle toutes les problématiques liées à la reprise, puisqu'il faut des barrières sanitaires adaptées, il faut désinfecter assez régulièrement. Une désinfection manuelle, ça prend des heures et des heures. Une désinfection sur une usine de 5000 m², par exemple, en une heure, c'est fait. Ce qui veut dire qu'entre deux équipes, par exemple, on couvre 5000 m². Donc, vous imaginez le travail sur 8 heures, ça fait une grosse société de 40 000 m² qui est complètement désinfectée.
Et ça signifie aussi qu'on n'a pas besoin d'envoyer du personnel, et en ces temps de crise sanitaire, c'est aussi un peu compliqué. On n'a pas besoin d'intervention humaine, donc moins besoin de protection non plus et de personnel habillé avec des charlottes, des blouses, des masques.
Ah oui, c'est vraiment une des caractéristiques de ce robot, c'est qu'il est entre guillemets intelligent. Il va cartographier son environnement et ensuite il va se déplacer et traiter toutes les zones qui sont à traiter. Et au-delà de ça, il charge tout ce qu'il fait. Il y a une traçabilité qui est assurée, c'est-à-dire qu'on sait précisément ce qu'il a fait, quand il l'a fait, comment il l'a fait. Et ensuite, on peut améliorer les process en fonction des résultats. Donc, non seulement c'est quelque chose qui développe une expérience digitale, mais cette expérience digitale va aider à améliorer systématiquement le process et la désinfection.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé aussi une innovation du côté du Puy-de-Dôme.
Oui, alors ça, pour désinfecter les bureaux, une entreprise qui est basée dans le Puy-de-Dôme qui a innové avec une lampe hybride. Une lampe qui permet à la fois d'éclairer les bureaux, les espaces qui accueillent du public, mais aussi de désinfecter les surfaces la nuit lorsque les locaux sont vides. Cette entreprise, c'est le groupe Dietal. Il est implanté en France et en Roumanie. Et donc, cette lampe, elle est équipée d'un LED UVC, hein, avec des rayonnements ultraviolets qui permettent de stériliser la surface en éliminant le caractère infectieux, en éliminant le virus. C'est une technologie qui est assez connue, qui est utilisée depuis longtemps, hein, notamment dans les hôpitaux. Mais là, comme il y a le caractère un peu hybride, hein, c'est-à-dire que c'est une lampe qui à la fois ça éclaire et ça désinfecte, donc c'est en ce sens que c'est une innovation du groupe Dietal.
Et la transition est toute trouvée pour accueillir notre prochain invité. Benoît Gilman, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez fondé, vous, BioUV, groupe que vous dirigez dans l'Hérault, du côté de Lunel. Votre mission première, c'est le traitement de l'eau avec les fameux rayons UV dont on parlait à l'instant. Mais là, vous avez réfléchi à comment adapter ce savoir-faire pour que ça soit utile dans le cadre de la désinfection Covid.
Et c'est exact. On a 20 ans, on est parti de rien. Aujourd'hui, c'est 80 personnes en France et 35 en Écosse. On est à la fois, on maîtrise depuis 20 ans la technologie UVC, ne pas confondre avec les UVA et les UVB. La longueur d'onde n'est pas la même. Et on maîtrise aussi la technologie ozone. Et à partir du moment où on conçoit et on fabrique, effectivement, on savait dimensionner des appareils pour le traitement de l'eau et sous toutes les formes d'eau, puisque toutes les eaux ne se ressemblent pas. Et puis on s'est dit, mais il n'y a pas de raison qu'avec la technologie qu'on maîtrise, on ne sache pas designer quelque chose pour désinfecter les surfaces, qui nous paraît prioritaire par rapport au traitement de l'air. Et si vous voulez, c'est pour ça qu'en 3 semaines, effectivement, le bureau d'études s'est arraché, pardonnez-moi l'expression, et on a sorti les premières unités pour les tester en laboratoire.
Alors déjà, ce sont des petits scanners, hein, c'est ça qui peuvent désinfecter les surfaces. Un bioscan, c'est son nom, je crois.
Bravo, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va balayer la surface que l'on veut traiter en la touchant, hein, comme vous passeriez une éponge sur un bureau, ou vous balayez la surface d'un clavier d'ordinateur, ou dans les EHPAD d'un lit, des montants de lit, chez un docteur généraliste. Vous voyez qu'il passe des dizaines de personnes par jour, qui potentiellement peuvent être infectantes. Et là, on va balayer tout ce qui va être les sièges, tout ce qui va être tous les espaces qui peuvent être, enfin les surfaces qui peuvent être touchées par les personnes potentiellement infectées. Ce que je voudrais particulièrement insister sur la validation des procédés et des systèmes.
Oui, parce que c'est en cours, le prototype est testé en ce moment à Montpellier, c'est ça, pour confirmer son action ?
Voilà, ce que vous dites est fondamental. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sortent dans le monde et les gens découvrent les UVC. C'est curieux parce que ça a été inventé en 1904 à Marseille. Mais si vous voulez, il faut vérifier dans des laboratoires indépendants l'activité que l'on a, à la fois sur les bactéries et les virus, dont le coronavirus. Et si vous voulez, dans notre cas, on a fait 2 laboratoires. Un premier laboratoire qui, selon une norme connue et précise et un protocole drastique, a validé notre efficacité à 4 logs et 5 logs, c'est-à-dire 99,99 et 99,999. Ça, c'est pour les initiés. Et on est dans un deuxième laboratoire actuellement pour valider sur le virus lui-même.
Et alors là, vous aurez la réponse demain, si mes informations sont bonnes, c'est ça? La validation, c'est prévu pour demain?
Alors demain, non. Parce que demain, c'est férié. Non, je plaisante. Non, c'est prévu pour là, dans les 10 jours qui viennent. Et effectivement, on va lancer le produit avec ces validations à la fin du mois de mai.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé aussi, on est toujours dans ce questionnement de la désinfection des lieux, robot, un autre robot, Octopus, c'est ça?
En fait, Octopus Robot, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui est basée à Cholet à la base. Cette entreprise, elle est connue pour des solutions d'assainissement des élevages de poulets. Et elle est revenue là, avec la crise, à la désinfection des bâtiments. C'était une activité qu'ils avaient abandonnée il y a 6 ans, faute de marché, il n'y avait plus de demande. Et là, ils se sont alliés avec un spécialiste de nettoyage pour proposer une nouvelle solution avec le robot qui désinfecte, qui déambule dans les rayons d'un supermarché, des supermarchés. Ils ont proposé ça à travers les réseaux sociaux et pour rappeler que eux étaient connaisseurs et avaient l'expertise de la désinfection des bâtiments. Et du coup, grâce à ce positionnement, ils ont pu avoir une espèce de coup d'avance pour pouvoir se lancer là-dedans, dans ce projet pour désinfecter les établissements qui reçoivent du public, comme les aéroports, les usines et les supermarchés.
Dernière question concernant BioUV Group. Vous pourrez lancer dans la foulée la fabrication dans l'Hérault, dans votre usine ?
Complètement. C'est-à-dire que première pré-série, une centaine d'appareils dès la fin du mois de mai. Et on table sur 1000 appareils dès le mois de juin.
Merci, merci d'avoir été avec nous. La France bouge continue, 13h16 sur Europe 1.
Europe 1.
La barre du métro, le bouton de l'ascenseur, comment être sûr de ne pas toucher des objets contaminés? Là encore, vous allez le voir, des Français innovent.
Europe 1. La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous être utile.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h18 sur Europe 1, nous sommes nombreux, hein, c'est vrai, à nous demander comment reprendre une vie quasi normale après le 11 mai, pour emprunter par exemple les transports, taper son code sur un distributeur, appuyer sur ne serait-ce qu'un bouton d'ascenseur. Il va falloir se servir de nos mains et nous n'avons pas vocation évidemment à vivre avec des gants 24 heures sur 24. Alors vous allez voir que des Français ont imaginé pour nous des solutions. Bonjour Jean-Philippe Lavigne.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'entreprise Océane en Ille-et-Vilaine. Votre métier, c'est vous aussi l'hygiène des entreprises. Et vous avez, avec vos équipes, travaillé, alors ça nous intéresse, sur les caddies de supermarché. Je crois que ce sont vos employés, tout simplement, en allant faire les courses, qui se sont aperçus qu'il y avait quand même besoin de faire quelque chose pour le nettoyage. Parce que sinon, il faut tout nettoyer à la main, un par un.
Effectivement. L'idée est venue d'un de nos collaborateurs qui est, en rentrant chez lui un soir et en faisant ses courses, s'est dit c'est bien, le chariot est désaffecté, la barre de poussée, mais l'ensemble de mon chariot ne l'est pas. Il a lui-même réalisé un croquis à la main ou à main levée, on dirait. Et le lendemain matin, il est revenu à l'entreprise, il a sollicité ses équipes techniques et ils ont travaillé sur un premier prototype. Nous avons ensuite réalisé un cahier de charges parce qu'on était en droit de se demander qu'est-ce qu'une grande surface alimentaire ou non alimentaire d'ailleurs peut avoir comme contrainte. Et à partir de ce cahier de charges, on a réalisé un prototype. Nous sommes ensuite allés le proposer à deux grandes surfaces, dans notre commune ou à notre entreprise, à l'Union des Verts, et l'autre dans Fougères. Et les deux dirigeants de ces entreprises ont dit oui, c'est intéressant. Aujourd'hui, on ne fait que manuellement et chariot un par un. Si votre solution peut permettre de traiter plusieurs chariots, on va gagner beaucoup de temps. Et le concept est parti de cette base-là.
Donc en 15 jours. C'est comme ça qu'est né Arc, voilà. Arc Protect, hein, c'est son nom. Alors c'est quoi? C'est une sorte d'arc qu'on déplie et qui est équipé de bus qui vont diffuser des produits désinfectants?
Effectivement, c'est une arche donc qu'on peut schématiser pour visualiser comme un U inversé. Elle est sur roue, donc l'objectif c'est qu'elle soit mobile. Elle est équipée de 5 buses, 3 buses supérieures et 2 buses latérales. Elle est équipée d'une pompe doseuse qui va permettre d'injecter un produit, le produit que le supermarché va vouloir utiliser.
Et, un peu comme quand on va faire laver sa voiture finalement, hein. C'est un peu le même genre de système.
C'est ça en miniature. C'est sans miniature. Elle est postée près des parcs Acadie et elle ne nécessite qu'une arrivée d'eau pour être fonctionnelle. L'opérateur chargé du nettoyage va amener ses caddies et ses chariots au pied de l'arche, va ouvrir la vanne, va passer sa pile ou sa file de 10 ou 15 chariots et en moins d'une minute, ils seront totalement désinfectés. Quand je dis totalement, c'est 100% du chariot désinfecté.
Oui, c'est important de le dire parce que, Elisabeth, concrètement, c'est quoi la durée de vie d'un virus sur les surfaces ?
Alors, selon les supports, le coronavirus a une durée de vie variable. Alors, on parle de 5 jours pour le verre, de 4 jours pour le bois, 3 jours maximum sur l'acier et certains plastiques, et parfois de 24 heures sur d'autres plastiques, 3 heures dans l'air. Donc, c'est encore assez... ça varie. Le type de surface, mais aussi la température ou l'humidité peuvent jouer sur la durée de vie du virus. En revanche, on ne sait pas encore si les particules, à ce moment-là, une fois qu'on vous les touchez et que le virus est dessus, on ne sait pas si elles sont encore contagieuses.
Jean-Philippe Lavigne, vous avez déjà commencé à livrer ?
Oui, on a commencé à livrer, on a commencé à fabriquer la semaine passée. Nous avons installé une ligne de production et nous sommes prêts, on s'est adapté pour pouvoir en mettre en œuvre une deuxième, voire une troisième rapidement. On a commencé à livrer précisément hier nos premières commandes, puisqu'on a pris à ce jour 60 commandes de ces équipements.
Alors vous allez rester avec nous, on va rejoindre Franck Béranger qui nous attend, qui dirige l'entreprise Solea et qui a développé un système qui permet de fabriquer un désinfectant à base de sel et d'eau. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1.
Merci
ce
à
système,
vous.
Il s'appelle Aura, c'est ça ? Déjà peut-être, qu'est-ce que ça signifie Aura ? Parce que ça a une signification.
Oui, tout à fait. Donc c'est un système... Aura signifie donc antiseptique pour une utilisation universelle et efficace, donc en anglais parce que le produit est destiné à être diffusé un petit peu partout dans le monde. Donc oui, c'est un système autonome de fabrication, de production d'un désinfectant en fait à partir de boîtes de sel, tout simplement.
C'est-à-dire tout simplement, parce que ça a l'air très simple quand vous le
c'est
dites.
Très simple. C'était le principe, la complexité du système est de le rendre simple en fait. Donc on utilise le principe de l'électrolyse qui est un principe très connu depuis longtemps. Et notre enjeu, ça a été en fait de réduire toute la partie de l'électronique et de la gestion de cette électrolyse pour l'intégrer dans un tout petit équipement qui fait environ 13 kilos et qui se pose sur une table. Donc l'utilisateur en fait est le bénéficiaire du produit, c'est-à-dire que l'utilisateur produit son propre désinfectant chez lui, enfin dans son établissement ou dans le lieu où il l'utilise, à partir d'eau et de sel uniquement.
Franck Bernage, ce que vous ne dites pas, c'est qu'au départ, ce produit, vous l'avez imaginé pour l'UNICEF en Afrique, hein, je crois.
Tout à fait. Alors, nous, on travaille sur ce produit depuis plusieurs années. L'idée, elle est venue du fait que dans les pays où on travaille dans pas mal de pays d'Afrique, on s'est rendu compte que ce produit de base n'existait pas, n'était pas disponible au niveau des centres de santé en particulier en général un peu partout. Et on s'est dit, mais comment on peut faire pour rendre disponible ce produit ? Donc, en général, il est livré par des produits manufacturés en Europe ou dans les grandes capitales et qui n'arrivent pas toujours, voire rarement, vers le bénéficiaire final qui parfois s'est éloigné des grands centres. Et on s'est dit, plutôt que de l'acheter et de l'envoyer, on va essayer de le fabriquer sur place. Et on s'est rapproché de partenaires qui avaient la maîtrise d'une partie des métiers, comme l'électrolyseur, oui. Et qui nous a permis de développer ce produit pour que les gens puissent fabriquer eux-mêmes leur propre solution désinfectante.
Ouais, ça signifie qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise en France peut s'équiper de ce système pour fabriquer son propre produit ?
Complètement. Une entreprise, une mairie par exemple, si elle a besoin d'une certaine quantité de désinfectant, elle vient le matin, une personne en quelques minutes remplit le bidon de production, appuie sur le bouton, part travailler, revient 3h30 après, elle a 8 litres de désinfectant disponibles, et après, il nettoie les mobiliers urbains, les infrastructures sportives, les sanitaires, peu importe, ça peut être dans les écoles, ça peut être dans les EHPAD, ça peut être un peu partout, à partir du moment où les gens ont un besoin journalier ou quotidien, ou régulier d'un produit désinfectant.
Et ce système, il va être embarqué aussi sur le robot désinfectant qui est en cours de développement, je crois, dans le cadre l'appel à projet CleanTech Booster, c'est ça ?
Il va peut-être être embarqué sur un des robots qui est en cours de développement, tout à fait.
Bon, donc ça veut dire qu'effectivement, ça fonctionne et qu'on a des solutions finalement assez naturelles, si je veux dire, parce que là, on est sur de l'énergie solaire, on est sur du sel et de l'eau, donc c'est quand même assez bluffant. Elisabeth, ce marché, il est aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, le marché de la désinfection, notamment des bureaux, ouais. Il est devenu vraiment conséquent.
Ouais, il est devenu conséquent parce que d'ailleurs je vous invite à faire un test quand vous tapez désinfection bureau sur internet, vous avez énormément d'annonces en ce moment, donc c'est voilà, ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, et la crise a provoqué des idées, de la transformation de certaines entreprises, hein. On en parlait tout à l'heure avec Octopus Robot qui s'est remis dans ce qu'il savait faire il y a déjà plusieurs années. Il y a aussi une jeune pousse qui s'appelle Need Robotics à Courtois-sur-Yonne qui a mis au point un robot portable pour désinfecter plus de 99% les surfaces de l'air, là aussi grâce aux rayons ultraviolets. Et le traitement avec le robot donc, de cette jeune pousse permet de nettoyer chaque pièce pendant une dizaine de minutes. Et voilà, le tour est joué. Donc on le voit au fur et à mesure, des entreprises qui innovent et des entreprises qui s'adaptent et qui se transforment, transforment leur activité ou qui renouent avec leur activité pour pouvoir répondre à cette demande croissante de la désinfection des bureaux et des entreprises qui accueillent du public.
Des entreprises françaises qui sont ingénieuses, qui sont inventives et qui sont tous les jours avec nous. On est ravis de les recevoir. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1, 13h27. La France bouge, continue.
Europe 1.
Se laver les mains plusieurs fois par jour, utiliser du gel hydroalcoolique, c'est une des préconisations hein, pour que les produits soient utilisables par le grand public. Et bien, vous allez voir que de nouveaux genres de distributeurs sont en train de voir le jour.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
1h30 sur Europe 1 et vous le savez, hein, depuis 8 semaines maintenant, nous avons dû apprendre à vivre avec dans la maison, dans le sac, dans le bureau, hein, un petit flacon de gel hydroalcoolique. Après la pénurie des débuts, eh bien les industriels ont modifié leur chaîne de fabrication pour se mettre justement à en produire. Mais la question reste de taille, où et comment se nettoyer les mains quand on prend le métro, qu'on tape son code dans un magasin, qu'on pousse une porte tout simplement. Bonjour Eric Lemenay.
Bonjour Raphaël Duchemin.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le créateur du distributeur Gel Express. Je crois que depuis tout petit, hein, vous avez voulu être inventeur. Bah, ça y est, c'est fait. Vous avez mis au point un distributeur pour les passants.
Exactement. Voilà. C'est un rêve depuis tout petit hein, d'être inventeur. On nous dit soyez ingénieur, c'est mieux. Bon, je suis revenu à inventeur. Et effectivement, la crise nous a montré qu'il fallait se laver les mains partout. Et le gouvernement l'a dit, et je me suis dit, mais ok, mais où sont les lavabos, où sont les savons dans l'espace public? Donc il y avait l'histoire du gel, et vous parliez des petits flacons. Moi j'ai galéré pour en avoir, donc je me suis dit, en fait, si certains n'en ont pas, ils vont porter le virus. Et le but du jeu, quand même, là-dedans, c'est qu'on soit tous prévoyants. On est tous du gel à disposition. Donc je me suis dit, dans les lieux de fort passage, le métro, un aéroport, la gare SNCF, le bus, le collège, le lycée, il faudrait que tout le monde ait sa dose. Si tout le monde a sa dose, alors on se met en sécurité. Donc je me suis dit, ok, il faut une machine qui fasse ça vite parce qu'il y a beaucoup de monde. Et j'ai inventé Gel Express.
Oui, alors moi je peux me dire exactement la même chose. Je serais totalement incapable d'inventer une machine qui distribue du gel dans la rue. Comment est-ce que vous avez fait?
Ah bah, comment est-ce que j'ai fait? J'observe. Depuis toujours, j'observe beaucoup. Et je me pose la question, ok, de quoi on a besoin? Et ça marche aussi avec toute la technologie. Donc, mes études d'ingénieur m'ont aidé aussi à appréhender la technologie et à comprendre comment les choses fonctionnent. Et avec mon grand fatras qu'il y a dans mon garage, il y a plein de pièces détachées dans tous les sens. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba version Géo trouve tout. Et étant coincé chez moi, tous les magasins fermés, j'ai pris que de la récup. Alors une petite pompe par là, un petit électrovan par ici, un petit bout d'électronique par ici, et un sommier, je vous dirais, un sommier en bois dans la rue et une affiche une enseigne en plexi. J'ai mis tout ça ensemble et ça appelle la machine Gel Express, voilà, qui peut balancer une petite dose tout de suite dans la main. Dites-moi.
Alors justement, ça, comme vous dites, ça balance combien dans la main? Comment est-ce que vous avez dosé?
Alors, j'avais commencé à doser à 3 millilitres, qui est la recommandation que fait l'OMS et beaucoup de médecins. Il se trouve que quand ça sort de ma machine, ça recouvre déjà tellement bien la main que 3 millilitres, ça déborde. Donc 2 millilitres, ça marche bien. Et comme dedans, j'ai mis un grand bidon de 20 litres pour des raisons écologiques, eh ben, on peut distribuer jusqu'à 10 000 doses. Et la dose, elle sort vite, elle sort en un tiers de seconde. Ça veut dire que si on met une file continue de gens, on peut protéger 1000 personnes en 5 minutes. Donc, vous imaginez, dans un lycée, quand la cloche sonne, on met ça à l'entrée d'un couloir ou quoi que ce soit, on n'a même pas retardé l'entrée en classe. Alors que s'il faut appuyer sur un petit pouce-mousse, bah, l'heure a passé, le professeur de français a un petit peu les nerfs, parce que le dernier s'assoit quand le premier s'en va.
Oui, c'est un peu ça. Alors, vous restez avec nous. Elisabeth, c'est vrai que la production de gel en France, elle a littéralement explosé, hein, ce fameux gel hydroalcoolique.
C'est simple. Hein, la production de gel a été multipliée par 10. Les cadences de production se sont renforcées en très, très peu de temps, hein, le temps depuis le début de la crise. Dans les usines qui en produisaient, des usines, elles aussi, ont modifié leur ligne de production pour répondre à la demande et pour répondre aux pénuries. Et en quelques semaines, la production de gel hydroalcoolique est passée en France de 50 000 litres par jour avant la crise à plus de 500 000 litres par jour. Hein. Ce sont les chiffres de France Industrie. La solidarité, mais aussi l'opportunité de pouvoir ouvrir des usines de production dans un contexte qui était quand même assez sinistré. Tout ça, ça a permis de démultiplier les sites de production de gel hydroalcoolique. Donc là aussi, on en ressort toujours du positif. Hein. On le remarque chaque jour. Oui. Même là-dessus, il y a quelque chose de grand qui en est ressorti.
Alors, nous étions avec Éric Lemenné, notre Géo Trouve Tout. Vous restez avec nous, Éric, parce qu'on va accueillir Thierry Lenoy, qui est directeur général de JVD. Et là, on n'est plus du tout dans le Géo Trouve Tout. On est dans l'entreprise installée depuis 35 ans, du côté de Rézé. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, je le disais, hein, vous, c'est votre métier de faire effectivement des sèche-mains, des essuie-mains, de l'hygiène en fait. Et vous aussi, vous vous êtes dit, on va s'adapter à cette crise du coronavirus. Vous avez donc, vous aussi, créé des distributeurs de gel hydroalcoolique.
Alors, en fait, on fabrique depuis déjà longtemps des distributeurs de gel hydroalcoolique. Ça fait partie des familles de produits qu'on a à notre catalogue depuis quelques décennies. On en fabrique d'ailleurs quelques dizaines de milliers par mois. L'originalité de notre approche actuellement, c'est de connecter les distributeurs de gel pour mesurer en permanence le niveau de gel disponible dans le distributeur.
Pour qu'il n'y ait pas de rupture, en fait.
Pour qu'il n'y ait pas de rupture, exactement. Ça permet de garantir une disponibilité permanente aux usagers des services publics ou aux gens qui fréquentent des lieux publics. Et puis de faciliter les opérations de réassort.
Ces distributeurs, aujourd'hui, on peut les mettre partout. Vous avez, je crois, déjà pas mal de demandes. Hein. Vous travaillez déjà avec pas mal de salles de spectacle, des cinémas en temps normal, des écoles. Mais là, Aéroport de Paris, le métro lyonnais, Bordeaux aussi, vous ont démarché ?
Oui, exactement. On utilise une technologie de télécommunication conçue pour l'Internet des objets. Et nos capteurs installés dans les distributeurs, en fait, peuvent communiquer l'information, y compris en mobilité. Et l'originalité, en fait, on a commencé à l'installer dans le tramway de Nantes. On a réalisé que ça rendait un grand service et que ça fonctionnait parfaitement. Donc ça a ensuite été repris dans différentes sociétés de transport public qui sont en train de le mettre en œuvre. Donc vous avez cité Lyon qui en fait partie, y compris la liaison Rhône Express qui va à l'aéroport. Bordeaux est en train de le mettre en place. Et tous les jours, de nouvelles villes se frappent à notre porte pour déployer cette technologie. Et puis évidemment, ça s'adapte très bien à des lieux qui accueillent un grand public. Alors, en ce moment, il y a moins de monde dans les lieux publics, mais les lieux à forte fréquentation, il peut y avoir des variations de fréquentation et des grandes surfaces à couvrir, telles que l'aéroport de Paris, mais ça peut aussi concerner des gares, par exemple, ou des centres commerciaux.
On en parlait tout à l'heure avec Éric Lemenné. On peut finalement et on va devoir s'habituer à avoir ces bornes de gel hydroalcoolique un petit peu partout pour pouvoir, ne serait-ce que dans la rue, finalement passer nos mains et avant de, par exemple, devant la banque, hein, avant d'aller taper son code sur le distributeur.
Oui, mais y compris, je pense, dans les magasins du quotidien, les magasins de vêtements, les magasins de presse, enfin, tous les endroits où on va toucher des produits un peu étrangers, les gens vont être suspicieux. Enfin, je pense que tant qu'on n'aura pas de vaccin, et comme ça va durer un certain temps, je pense que ça va rentrer dans les mœurs. De manière générale, de toute façon, nous, en tant que professionnels de l'hygiène, fabricants français depuis 35 ans, on est en train d'observer des évolutions de mentalité et on pense que l'hygiène va franchir un palier en France à l'issue de la crise.
Elisabeth ?
Oui, vous dites que l'hygiène va franchir un palier. C'est surtout la façon de vivre qui va changer en prenant en compte l'hygiène. Mais on va pas se laver. Enfin, ça va pas être. Il faut pas non plus rentrer dans la psychose de la propreté et de tout ça. Je pense que c'est vraiment le lavage des mains ou avoir son gel à portée de main. Voilà. Vous avez l'impression que qu'on va franchir un palier. Ça va être même dans nos maisons. Ça va être dans les magasins. Ça va être partout.
Ouais, ça, je suis pas en situation pour me prononcer. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, sociologues, qui pourront vous renseigner, ou enfin des experts en infectiologie. Ce que je peux dire, c'est que on a beau être dans un pays très développé, il y a beaucoup de lieux publics, et en premier lieu les écoles, les collèges, lycées, et des lieux fréquentés tous les jours, que ce peuvent être des toilettes de gare ou de lieux de passage qui sont sous-équipés en distributeurs de savon et de papier.
Bien sûr.
Vous sentez qu'il y a une sorte d'inversion de tendance, quoi.
En tout cas, il y a une prise de conscience qu'il n'est pas tolérable de vouloir se laver les mains sans trouver du savon et du papier. Et de plus en plus, maintenant, les gens vont chercher du gel hydroalcoolique dans les lieux publics.
Et ça va changer, en revanche.
Ben, c'est notre impression. Et en tout cas, avec le distributeur de gel connecté, ce qu'on a voulu faire, c'est éviter des situations angoissantes pour le public, et notamment les usagers de transport en commun. Parce que si vous vous retrouvez dans un tramway à 15h ou dans une gare à 20h et qu'il n'y a pas de gel disponible parce que les équipes ne sont pas encore intervenues, c'est une situation qui peut être extrêmement angoissante. Et donc, en fait, nous, on remonte en permanence sur un serveur hébergé sur Internet l'information de la disponibilité. C'est-à-dire que les exploitants peuvent à tout moment savoir quel niveau de gel hydroalcoolique il reste dans tous les distributeurs de gel installés à un endroit donné ou sur une région donnée.
Et donc, assurer évidemment le réapprovisionnement. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces dispositifs français qui sont en train de se développer à vitesse grand V avec la crise du coronavirus. 13h40, la France bouge continue.
Europe 1.
En entreprise comme dans les immeubles, il va falloir trouver de nouvelles manières d'ouvrir les portes. Et là encore, vous allez voir que les Français ne manquent pas d'ingéniosité.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h43 sur Europe 1, ouvrir les portes sans les toucher, c'est possible hein, quand il y a des sas automatiques, cela ne pose évidemment aucun problème, mais tous les lieux n'en sont pas équipés. Bonjour Sébastien Cuquemel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président du groupe ProBent. Alors je disais, les portes, elles ne s'ouvrent pas toutes seules, il faut en principe mettre la main sur la poignée, mais vous avez mis au point des pédales pour ouvrir les portes. Cet outil s'appelle comment ?
Donc cet outil s'appelle le KIK. Pourquoi KIK ? En fait, c'est l'addition de deux mots qui sont KI pour clé et KIK pour le coup de pied. Ce qui fait qu'en fait, avec votre coup de pied, vous ouvrez directement une porte.
Donc pour ouvrir une porte, au lieu de mettre la main sur la poignée, on actionne avec le pied. Il y a quoi ? Il y a une petite pédale en bas ?
Exactement. En fait, si vous prenez le système d'une poubelle qui s'ouvre directement avec une pédale, donc ça fait ouvrir en fait le couvercle. Donc nous, notre système, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une pédale en pied de porte qui est relié directement avec un câble sur la poignée de la porte. Et en fait, en actionnant la pédale, on actionne directement la poignée, et ce qui fait qu'on peut l'ouvrir et la fermer directement avec votre pied.
Comment vous est venue cette idée pendant le coronavirus ?
Donc oui, en fait, pendant le coronavirus, donc des salariés justement ont imaginé pas mal de choses. Et en fait, ce qu'on voulait faire, c'était pouvoir rapatrier certaines personnes pour pouvoir travailler en toute sécurité. Et en fait, quelques salariés ont trouvé justement l'idée de pouvoir ouvrir la porte avec le pied. Comme nous, on est dans le domaine de la métallerie, en fait, on a créé un prototype à base donc d'acier inox. Et en fait, on a créé ce prototype-là en 2-3 jours. Et derrière, on a essayé de le commercialiser pour pouvoir le vendre à plusieurs entités.
Oui, alors je crois que les 150 premières unités sont en cours de fabrication. Vous avez déjà des clients justement qui vous ont passé des commandes ?
Donc aujourd'hui, en fait, on est maintenant à 600 commandes. On va rentrer vraiment dans la grosse industrialisation à partir de lundi prochain, parce qu'on commence à avoir beaucoup, beaucoup de commandes, en fait, en grosse quantité.
Oui, premier client, je crois, dans la Manche. Et alors, petite surprise ou grosse surprise même, vous avez eu des appels des États-Unis qui vous ont demandé de travailler pour eux.
Exactement, on est toujours en fait en contact avec eux. Donc, c'est un distributeur mondial qui est situé en fait aux États-Unis. Et aujourd'hui, on travaille en fait sur vraiment des gros volumes avec eux pour qu'ils puissent redistribuer directement donc notre produit vers des plateformes qui sont à travers le monde.
Dites-moi, cette pédale, on peut la mettre sur une porte d'entrée, une porte dans un bureau. On peut la mettre aussi, j'ai vu que ça existait notamment en Asie, sur les portes réfrigérées pour aller par exemple prendre un plat surgelé.
Alors oui, notre système pourrait justement s'adapter à ce type de porte. Nous, la spécificité en fait qu'on a par rapport à d'autres produits qui existent un peu sur le marché, c'est que nous en fait on se fixe pas sur la porte, c'est-à-dire qu'on perce pas la porte. Si notre produit, en fait, demain, au bout d'un an, vous voulez l'enlever, votre porte, en fait, elle est intacte. Et donc, on peut, en fait, utiliser la porte comme avant avec la poignée et on n'aura pas de trou directement dans la porte.
Il va venir se clipper sous la partie basse de la
Exactement,
porte, hein, si
ouais.
J'ai bien compris.
Tout à fait. Sous le centre de la porte. Et on peut l'utiliser aussi pour des poignées qui sont rondes.
Alors, vous restez avec nous. Elisabeth, oui. Il y en a pas mal des innovations qui sont en train de se mettre au point pour éviter de toucher les poignets. Oui. Je crois que vous avez trouvé des spécialistes de l'impression 3D qui ont innové.
Oui, alors il y en a un à Toulouse, hein, le chef de projet à l'ICAM de Toulouse qui partage gratuitement en ligne les plans de poignées de coudes, hein, des vrais plans qui permettent d'ouvrir les portes plus confortablement grâce à notre coude. Plusieurs installations de ce type ont été expérimentées, notamment dans une clinique de Toulouse ou encore au Mans, Brin qui a choisi la surpoignée cartonnée. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le mobilier événementiel hein, pour différentes manifestations. Et là, comme ils souffrent de l'annulation de plein de salons professionnels, ils se sont dit on va déployer à grande échelle des pièces de carton en libre service pour couvrir les poignées de plein d'infrastructures dans les caddies, dans les paniers, dans les stations-service. Hein, vous savez, le pistolet de distribution d'essence, là aussi, si on n'a pas de gants, ça peut être intéressant d'avoir une poignée cartonnée dans les transports pour les barres de maintien. Et l'entreprise a déjà enregistré pas mal de commandes.
Alors justement, nous sommes en train de parler des poignées et là aussi, nous sommes avec une entreprise qui a inventé un système. Bonjour Yannick Silva.
Bonjour Rachel.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez N-Concept. Vous avez imaginé alors un crochet poignée-coude pour que nous n'ayons pas là non plus à mettre la main sur la poignée. Je crois que c'est le capitaine crochet pour de bon qui vous a inspiré.
C'est exactement ça. C'est un crochet multifonction, un crochet personnel hygiénique. Donc, il est fait en inox antibactérien. Et il nous permet donc d'attraper des poignées pour pousser ou tirer une porte, de tourner un loquet, par exemple, de porte de toilette, de tirer la chatte, de bouger un mitigeur pour aller se laver les mains. Donc, d'appuyer sur des boutons type terminaux de paiement ou bouton hot, bouton d'ascenseur, par exemple. Donc l'idée, c'est vraiment, avec ce petit crochet, qui est à peine un peu plus grand qu'une clé, c'est de réduire la surface de contact avec les objets. Donc ce n'est pas de l'anti-Covid, c'est vraiment pour réduire les surfaces de contact et donc limiter les risques.
Oui, ça vient au prolongement de notre main finalement. Hein. C'est ce qui va nous permettre de mettre de la distance entre l'objet qu'on veut toucher et nous tout simplement. Vous êtes spécialiste hein, justement de cette question des crochets pour suspendre les sacs en règle générale. Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça peut servir pour le coronavirus? À quel moment vous dites...
Alors du tout, nous, on n'est pas du tout spécialistes là-dedans. Moi, je travaille dans l'événementiel, dans les technologies pour l'événementiel et on fait de l'innovation en permanence.
Donc c'est complètement nouveau.
Ça n'a rien à voir avec notre activité. Donc je suis à la tête d'une toute petite entreprise paloise qui est passée à travers les mailles du filet du gouvernement où on n'a eu aucune aide par rapport à cette situation. Et la crise étant, il a fallu se bouger. Vraiment un effet une initiative solidaire de vouloir aider autour de moi. J'ai dessiné et donc c'est par du constat, hein, constat de la famille, constat des gens autour de moi, de cette crainte de toucher les objets, d'être en contact. Donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai dessiné cette pièce. Je l'ai produite en impression 3D pour faire du prototypage. Et très vite, vraiment sous une chaîne très très locale, vraiment sud-ouest, on a pu passer en mode production au bout d'une semaine.
Alors ça voilà, y est, c'est commercialisé. Ouais, c'est 7 donc, euros, c'est ça? Et 1 euro reversé à la Fondation des Hôpitaux de France?
Voilà, tout à fait. Le crochet a été mis en vente le 21 avril sur notre site internet. Depuis, on comptabilise plus de 40 000 crochets vendus et donc, exactement comme vous le précisez, plus de 40 000 euros que nous allons reverser. Donc, c'est réparti entre les fondations des hôpitaux de France, Fondation de Paris, Institut de Pasteur. Et donc, ce crochet-là, aujourd'hui, nous avons dû malheureusement suspendre temporairement les ventes en ligne parce que nous devons vraiment nous structurer. Je suis parti de tout seul. Et aujourd'hui, c'est 6 sociétés qui travaillent autour de ce projet. C'est plus de 20 personnes. Donc, c'est vraiment une grosse structure à mettre en place, logistique, industrielle. Donc, les ventes sont pour l'instant temporairement suspendues sur le site, mais on invite vraiment tout le monde à s'inscrire de manière à ce qu'on puisse leur avertir du redémarrage des ventes pour les privés ou alors des points de vente où ils pourront l'acheter. Et bien nous sûr. Continuons, bien entendu, à prendre tous les commandes au-dessus de 50 pièces, donc des volumes pour les entreprises, pour les aider à préparer leur redémarrage après le 11.
Et oui, c'est vrai que c'est important, effectivement, de penser à l'après. Merci en tout cas et bravo d'avoir inventé ces nouveaux outils qui vont nous permettre, effectivement, d'être un peu plus en sécurité quand nous allons recommencer à nous déplacer à peu près normalement après le 11 mai. Elisabeth, on va se retrouver nous demain.
Mais évidemment, demain c'est vendredi.
Demain
et
c'est vendredi.
On va parler de...
Et demain, nous parlerons des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, avec cette crise du coronavirus, sont vraiment entrés dans notre quotidien.
Et vous allez voir déjà un peu, on peut le dire.
Hein. Oui, j'y étais beaucoup, mais alors là, encore plus.
Mais là, ils ont joué un grand rôle, effectivement.
C'est vrai. Et ils nous permettent de rester en contact. C'est quand même essentiel. On se dit à demain, évidemment, à partir de 13h sur Europe 1.
Europe 1.
Et dans un instant, ne bougez pas, Roland Pérez nous attend pour répondre à vos questions de droit.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Il est 13h54 et c'est l'heure, comme chaque jour, de retrouver l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez, qui nous attend. Bonjour Roland.
Bonjour Raphaël.
On va répondre comme chaque jour avant 14h aux questions que nous posent les auditeurs au 39-21 et sur le hashtag Radio Ouverte. Marie nous demande s'il est prévu des sanctions contre un employeur qui culpabilise un salarié qui a tous les signes du Covid. Beaucoup de salariés se taisent, dit-elle, pour ne pas perdre leur travail.
Et oui, ce Covid provoque évidemment beaucoup, beaucoup de stress et parfois de la fausse culpabilité. Donc, on va le rappeler quand même, Raphaël, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. C'est ce que dit le Code du Travail, oublions même le Covid, c'est ce que dit le Code du Travail de façon permanente, donc la santé physique et mentale des travailleurs. Et au regard du contexte sanitaire et actuel de cette obligation, plusieurs mesures ont été recommandées par le ministère du Travail. On sait que lorsqu'un salarié présente des symptômes, que ce soit de la fièvre ou des signes respiratoires ou d'autres signes que l'on connaît aujourd'hui après plus de 4 mois de présence du virus sur le territoire français, l'employeur doit le renvoyer chez lui s'il n'était pas en télétravail ou en chômage partiel. Il doit se rapprocher de la médecine du travail ou de l'agence régionale de santé afin d'être accompagné dans la mise en œuvre de mesures de prévention et surtout d'arrêt de travail. Le salarié lui-même, et Marie, j'espère qu'elle l'a fait, elle peut consulter son médecin généraliste référent pour un arrêt de travail pendant l'isolement. Et vous savez que le salarié, s'il n'est pas placé en arrêt de travail, et elle peut aussi invoquer, Marie, le droit de retrait. Il peut être exercé ce droit de retrait en cas de souffrance morale. C'est ce que dit la Cour de cassation. Elle n'a pas attendu le Covid pour le dire. Elle dit que dans toute situation de stress permanent et un refus d'écoute et de soutien de la part de la direction, eh bien, la Cour de cassation dit que cela constitue un motif raisonnable de penser que cette situation présente un danger grave et imminent pour la salariée. Donc, évidemment, le harcèlement de travail ne s'arrête pas avec le confinement. Vous avez d'ailleurs des plateformes, je sais que vous en avez parlé au tout début, Raphaël. Voilà, donc vous allez encore de nouveau en reparler. Il y a des plateformes qui viennent en aide, qui proposent d'ailleurs aux entreprises et aux salariés une ligne de soutien psychologique. Ça marche 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il y a par exemple la plateforme Eutelmed, mais il y en a d'autres qui ont été mises en place d'ailleurs par les régions, par les municipalités. Donc Marie peut se rapprocher également de la région où elle vit ou de la municipalité qui a mis en place également des cellules de soutien psychologique. Il y a aussi des associations locales, donc je pense pense que vous en reparlerez ultérieurement. Il y a plein de cellules d'écoute, donc là aussi, on peut accompagner Marie.
Oui, effectivement, et il n'y a effectivement aucune pression à mettre hein, sur un salarié qui présente les signes du Covid. Marc nous a écrit aussi, Roland, il nous demande qu'en est-il pour les réservations faites depuis plusieurs mois à l'étranger, comment se faire rembourser ?
Alors oui, on sait que maintenant il y a des nouvelles règles de remboursement des séjours qui vont probablement être annulés. Alors on ne sait pas encore s'ils vont l'être totalement, si les frontières vont rouvrir. En l'état, ce qu'on sait aujourd'hui, Raphaël, c'est que depuis le 16 avril 2020, des nouvelles règles s'appliquent à toutes les annulations faites entre le 1er mars et le 15 septembre 2020. Donc probablement que cela rentrera dans la question de notre auditeur. Sont concernés les séjours touristiques, les locations de voitures, les réservations d'hôtels, les billets de concert, les manifestations sportives, les parcs de loisirs, les cures thermales avec des soins dans des spas, tout cela est concerné. Il n'y a que les vols secs achetés auprès des compagnies qui vont continuer. La loi habituelle européenne s'applique, c'est-à-dire qu'il y aura un remboursement si le vol est annulé à l'initiative de la compagnie ou en fonction des accords qui peuvent être pris compagnie par compagnie. Alors, dans le cas des agences de voyage ou des réservations qui ont été faites en ligne auprès d'agents, l'agence doit informer évidemment notre auditeur de l'annulation et lui proposer soit un remboursement de l'intégralité du prix payé pour la prestation annulée, soit dans les 30 jours, lui remettre un email qui va constituer un bon d'achat valable de 18 mois, pendant 18 mois à partir de son émission, et qui correspond au montant payé initialement. Et ce bon d'achat peut être utilisé en tout ou partie pour acheter une ou plusieurs prestations proposées d'ailleurs par la même agence de voyage. Et si finalement ce n'est pas utilisé dans les 18 mois, il y aura un remboursement obligatoire qui interviendra au bout de cette période.
Voilà donc pour la question de Marc. Merci Roland, on se donne rendez-vous demain.
Oui, avec plaisir, demain, Raphaël.
Demain,
là.
Juste avant 14h, pour répondre à vos questions au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte.